toujours, toujours et toujours. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi, qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Voici ta mère. Elle est vraiment notre maman. Eh bien, demandons-lui, puisqu'on va parler d'elle et qu'elle nous aide. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans cette prière, Jésus nous invite à la compassion envers nos frères, envers nos sœurs. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Chaque fois qu'il y a blessure qui est infligée, chaque fois qu'il y a contradiction, en fait, nous sommes sur des planètes différentes et ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est mystérieux. Entrez dans cette compassion de Dieu qui toujours regarde son enfant avec amour. Dieu est amour. Il n'a de répulsion pour aucune de ses œuvres et il ne nous regardera toujours qu'avec amour. Pardonne-leur, ils ne savent pas. S'ils le savaient, ils ne le feraient pas. Mais quelquefois, ils ne peuvent pas. Alors c'est tout le poids d'amour, de la passion qui vient nous sauver. C'est mystérieux. Quelqu'un passait un petit papier, j'ai dû le perdre en route, disant, mais alors, si jamais on est dans cette attitude de passivité, disons, où nous attendons tout de Dieu, la part humaine, je dis à ma manière, où est-elle? Eh bien, la part humaine, elle va jaillir de la passion. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce n'est jamais par la force qu'on va faire avancer les événements. On aura toujours des gens qui se mettront en colère, qui courront dans les rues avec des pancartes, mais la violence n'appelle que la violence. Et chaque fois qu'il y a un mouvement de transformation de l'humanité, que ce soit les droits de l'homme ou autre chose, c'est toujours un fruit de la passion de Jésus-Christ. Toujours. La part humaine est à honorer, mais le premier moyen de transformer le monde est la prière et une confiance infinie au Dieu qui nous veut bien plus beau que nous sommes encore. Ce qui n'empêche pas que tout ce que font les humains, quelle que soit leur motivation, fasse concourir le plan d'amour de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est paradoxal, c'est pas contradictoire. Faire tout comme si tout dépendait de Dieu et en même temps faire tout comme si tout dépendait de nous. Il n'y a pas de contradiction entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre des hommes. Il y a une inclusion merveilleuse. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est accompli. Dans ce mouvement d'amour pur, total, tout est accompli. Dieu a dit son dernier mot. Et comme dirait saint Jean de la Croix, il n'en aura plus d'autre jusqu'à ce qu'il revienne. Et quand on lui dit, mais quand même Seigneur, fais quelque chose, c'est qu'on a oublié la passion de Jésus-Christ. Voulez-vous recrucifier le Seigneur de gloire, dira Jean de la Croix. C'est qu'on n'a pas pris la mesure de la croix de Jésus-Christ. C'est mystérieux, mais c'est ainsi. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, sans plus attendre, immédiatement, avant même la résurrection, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, dans ta mort, eh bien, tu verras le Seigneur de gloire ressuscité, même s'il est encore avec toi dans le tombeau et dans la vallée de ténèbres. Mystérieux, hein? Et puis cette parole que nous allons regarder ce matin, « Voici ta mère, voici ton fils. » Voici que je fais toutes choses nouvelles. Désormais, la nouvelle Ève et le nouvel Adam sont à l'œuvre. Et Jean en est le premier fruit. Voici ton fils. Et quand Jésus dit voici ton fils, eh bien c'est chacune et chacun de nous qui est là et qui est pris, reçu par Marie. Et le disciple l'a pris chez lui, en lui, dans son intime, dans son intimité. Et le sommet de ces sept paroles, c'est « J'ai soif ». C'est le cri de soif de Dieu. « J'ai soif de ton amour ». S'il nous a créés, si nous sommes créés à son image, à sa ressemblance, c'est pour que nous vivions de sa vie. Que nous soyons l'enfant tendrement chéri de Dieu. Et comme si nous n'avions pas encore compris, on l'a regardé hier avec ce larron. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il descend jusqu'en des profondeurs les plus obscures de notre vie pour nous en tirer. Il vient ouvrir la gueule du lion pour nous en faire sortir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tout est accompli. Désormais, plus rien ne reste à faire que de se laisser couler dans ce mystère de l'amour infini de Dieu qui nous est proposé. Le Cantique des Cantiques a une parole étonnante. Celui qui voudrait acheter l'amour ne recevra que du mépris. L'amour se donne gratuitement, gracieusement, sinon ce n'est pas l'amour, c'est une domination et c'est tout. Femme, voici ton fils. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, d'en haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais désignons par le sort celui à qui elle appartiendra. » C'était pour que soit accomplie l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Mystère. D'un Jésus dépouillé jusqu'au bout, il ne lui restera rien. Comme le Père, en donnant le Fils, a tout donné, le Fils donnera tout. Sa mère, ses disciples, qui me voient, voient le Père. Mystère d'une désappropriation totale de soi pour qu'enfin l'amour, le véritable, surgisse. Voilà où nous sommes. Voilà ce que firent les soldats. eux, ils récupèrent les restes et ils accaparent tout ce qu'ils peuvent accaparer. Mais on n'est pas dans le mystère de l'amour. Auprès de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Voilà où nous sommes et où nous allons demeurer ce matin. Femme, mystère de Jésus qui appelle sa mère « Femme ». On retrouve cette expression aux noces de Cana. Quand Marie dit « Ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus cette joie des noces, ils n'ont plus la parole de Dieu. « Femme, que me veux-tu ?» Elle réclame son sang. « Que me veux-tu ? Mon heure serait-elle déjà venue ?» Les exégètes ne savent pas traduire. « Quoi entre toi et moi ?» Mystère. La femme qui enfante est dans la tristesse. Marie à la croix est dans la tristesse. Parce que vient son heure. Par contre, quand elle a enfanté l'enfant, et Jean est son premier enfant, après le Christ, l'unique, eh bien, elle est dans la joie de ce nouvel enfantement. Par contre, quand elle a enfantant l'enfant, elle ne se souvient plus de sa détresse, à cause de la joie, parce qu'elle a été enfantée un homme dans le monde. Et puis l'Apocalypse, la femme revêtue du soleil, hein, Apocalypse 21. Nous connaissons bien ce texte. Hein. La lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Hein. Elle est enceinte. Elle crie dans les douleurs de l'enfantement. Non pas pour enfanter la tête. Lui, comme l'époux, il est passé dans la joie. Mais pour enfanter un corps de douleur et de rébellion. Là, elle pleure. Elle crie. Souffrant, tourmenté dans les douleurs de l'enfantement. La Jérusalem d'en haut, elle est libre, dit l'apôtre Paul, elle est notre mère. Femme, hein, celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. Elle fut tirée de l'homme, comme à la Genèse, le côté d'Adam est ouvert, et du côté d'Adam sort une femme. Marie, hein, la nouvelle Ève. Isaïe, une parole précieuse pour le lieu où nous sommes. Un pays, dit-il, chapitre 66, verset 8. Un pays est-il mis au monde en un seul jour? Une nation est-elle enfantée en une seule fois? Pour qu'à peine en travail, Sion ayant enfanté des fils? Non. On enfante la tête et on enfante le corps. Et toujours la biologie ne contredit pas. Normalement, c'est la tête qui passe la première, normalement, et le corps suit. Quelquefois, il y a des anomalies. Donc Jésus est dépouillé de tout. Il donne sa mère, il donne ses disciples. Ce sont des noces de sang. Tu es un époux de sang. Ce n'est plus l'ange qui lui adresse une parole et qui donne à Marie son fils, c'est Jésus lui-même. Voici ton fils. Et cette parole, elle est créatrice. Et le disciple l'a pris chez lui. C'est ce qu'il nous reste à faire, de prendre Marie chez nous si nous voulons être sœurs, frères de Jésus. Et entrer dans son mystère. Voilà ce que dit Grignon de Montfort à ce propos. Dieu le Fils veut se former et pour ainsi dire s'incarner tous les jours par sa chère mère dans ses membres. si Jésus-Christ, le chef des hommes, est né en elle, les prédestinés, c'est comme ça qu'il nous appelle, notre grignon, les prédestinés, nous sommes ces prédestinés. Qui sont les membres de ce chef, doivent aussi naître en elle par une suite nécessaire. Une même mère ne met pas au monde la tête ou le chef sans les membres, ni les membres sans la tête. De même, dans l'ordre de la grâce, le chef et les membres naissent d'une seule mère. Saint Augustin dit que tous les prédestinés, pour être conformes à l'image du Fils de Dieu, sont en ce monde cachés, dans le sein de la très sainte Vierge, où ils sont gardés, nourris, entretenus et agrandis par cette bonne mère, jusqu'à ce qu'elle les enfante à la gloire. Marie est plus notre maman que notre maman charnelle. Il ne faut jamais que nous l'oublions. Et pour la femme, c'est très important. C'est la seule manière de se libérer de sa mère, soit qu'elle soit trop envahissante, ou soit qu'elle soit trop absente, ou qu'elle soit entre les deux. On a besoin d'être libéré. Que dit Journet, le cardinal, quand on dit que Marie est le prototype de l'Église? On veut dire que Marie est dans l'Église plus que mère, plus qu'épouse, et par exemption du péché originel, plus vierge que l'Église. On peut dire que Marie est mère, qu'elle est épouse, qu'elle est vierge, avant l'Église et pour l'Église. Voici ta mère, on va le revoir, mais je me méfie du temps. Voici ta mère. Jésus introduit Marie dans l'Église. Dans l'Église apostolique. Allez. Voici ton fils, Jésus lit Marie et ses enfants. Et c'est le mystère de l'Église. Allez. Donc on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Impossible. C'est par un élan mystérieux qui vient de Marie. C'est par une excellence mystérieuse qui se diffuse à partir de Marie que l'Église peut être à son tour si vraiment mère, si vraiment épouse et si vraiment vierge. Dans l'ordre des grandeurs de sainteté, qui sont les grandeurs suprêmes, Marie est autour du Christ comme la première onde de l'Église, génératrice de toutes les autres jusqu'à la fin des temps. Elle tombe dans l'Église, hein, comme la pierre dans l'eau. Et cette pierre au milieu de la mer, eh bien, fera des cercles jusqu'au rivage, jusqu'à l'infini, jusqu'à ce qu'il revienne. Quand nous disons que l'Église est mariale, nous voulons signaler que Marie est intériorisée dans l'Église, à qui elle communique son esprit. Toutes les générations me diront bienheureuse. Il n'y a pas de violence, ce n'est pas une petite dévotion particulière. C'est un mystère à l'intérieur duquel nous nous trouvons. Plus l'Église répond, ressemble à la Vierge, plus elle devient épouse. Et plus elle devient épouse, plus elle ressemble à l'époux. Et plus elle ressemble à l'époux, plus elle ressemble à Dieu. Car ces instances superposées entre l'Église et Dieu ne sont que des transparences dans lesquelles se réfléchit l'univers, l'unique splendeur de Dieu. Alors nous allons continuer ce matin, tout simplement, eh bien, une méditation sur Marie qui nous est donnée dans son lien avec l'Église. Tout simplement. Et puis quand le temps aura passé, eh bien, nous irons la célébrer et célébrer Jésus avec elle. Donc, c'est un tout nouveau regard de Jean sur Marie et de Marie sur Jean. Comme Jésus la regarde, eh bien, nous sommes dans ce regard de Jésus. Jésus la regarda. ce regard d'amour de Jésus sur Marie, voyant que Jean était auprès de lui, malgré qu'on en est à la fin de ces 3 heures suspendues au bois, il y a ce regard d'une intensité particulière sur celle qui est sa mère. Voici ton fils, voici ta mère. Alors, reprenons cet auteur qu'on a déjà écouté hier, le père Ravanel. Jean souligne que les paroles de Jésus ont été précédées de son regard, le regard de Dieu. Jésus, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait. Il nous précise que Jésus est lucide, il sait ce qu'il fait. Il nous précise que Jésus est lucide quand il va s'adresser à sa mère et à Jean. L'épuisement de la flagellation, le sang versé tout au long du chemin qui l'a conduit au calvaire, ont pu provoquer des moments d'absence partielle. Quand on voit le pauvre Jésus dans le film de Gibson, il est à bout, n'empêche qu'il est le Dieu vivant. Et c'est ce qui surprend. Quand son regard est posé, c'est un regard étonnant. C'est le regard du Créateur. C'est le regard du Sauveur. Jésus porte un regard d'enfant sur sa mère. Une seule femme a eu droit à ce regard, Marie. Pour Jésus, ce fut sans doute un grand réconfort. Une communion filiale très intime. Il va la faire naître dans le regard de Jean. La parole de Dieu est créatrice. Elle réalise ce qu'elle signifie. Le regard de Marie sur Jean va changer. Il est le Fils, dans le Fils. Ce regard de Jésus, on le signale souvent dans l'Évangile, mais je ne vais pas m'y attarder. Marie est au pied de la croix, debout. Elle n'est pas effondrée, elle n'est pas dans l'hystérie, elle est debout, dans le calme que l'Esprit-Saint lui donne. Et quand Jésus lui donne son fils, ça montre bien qu'elle n'en a pas d'autre. Sinon, ça n'aurait pas eu de sens. Comprenez, c'est toutes ces histoires qu'on veut nous faire rencontrer. Ouais. Elle est donc bien présente à la douleur physique et morale de son fils. Elle perçoit les soubresauts de son corps écartelé. Ouais. À la fois, il agonise de la manière la plus effroyable qui soit, et en même temps, c'est le Dieu vivant au milieu de nous. Les mères ont cette capacité qui leur est propre de ressentir ce que vivent leurs enfants. C'est mystérieux. Elle voudrait bien être à sa place, mais non. Elle comprend que ce n'est pas là sa place, c'est d'être à côté de lui. Alors le père Ravanel continue, puisque c'est un disciple de Marthe Robin, « Depuis saint François d'Assise, quelques 500 stigmatisés nous ont rappelé les terribles souffrances de la Passion. » On se souvient, on faisait allusion à Catherine de Sienne. « De nos jours, dans un dialogue mystique, le Seigneur a proposé à Marthe Robin, « Veux-tu être comme moi ?» Marthe, contemplant dans une vision, Jésus mourant dans la douleur n'avait qu'un désir, s'unir à son bien-aimé en prenant sa place. Marie, elle vit ce glaive de douleur qui lui a été annoncé, et toi, un glaive de douleur te transpercera l'âme. Marie, comme son fils, vit ce drame tout en demeurant dans un amour total et en adhérant à la volonté du Père. On retrouve toujours le même, comme ça, la même ancre. Jésus demeure dans le Père, alors il est inébranlable. Marie demeure en Jésus, elle est inébranlable. Et tout l'orage du monde peut se déchaîner, ils ne peuvent rien. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre Pierre. Il aura beau faire toutes les bêtises qu'on connaît, n'empêche que dans sa foi, il demeurera ferme jusqu'à ce que Jésus revienne. On passera par des turbulences qu'on connaît dans l'histoire de l'Église. Eh bien, Jésus sera toujours dans son Église. Et c'est Catherine de Sienne qui dira au doux pasteur du Christ quand il est sur les collines d'Avignon, ce n'est pas sur les collines d'Avignon qu'on dirige l'Église, ce sont sur les collines de Rome, repart à Rome. Mystérieux, hein? Comment toujours désormais la femme, le visage humain, féminin, sera toujours dans l'Église, à côté du visage de celui qui a tâche ministérielle. Il n'y a pas de concurrence entre eux, comme on veut nous le faire croire aujourd'hui, comme la concurrence entre l'homme et la femme, et on voit. Où est-ce que ça nous mène? Je ne fais pas de détails, ce n'est pas la peine. Il y a des rôles respectifs à respecter. Sinon, on tombe dans la zizanie la plus totale qui soit. Il n'y a aucune révolte dans son cœur. Elle ne nourrit aucune haine contre les bourreaux qui exécutent leur mission. Fais ton travail, dit Jésus à Judas, et fais-le vite. Mystérieux. Marie se souvient des paroles de Jésus. Elle médite tout dans son cœur. Les disciples, et l'évangéliste le dit pour nous, ils ne comprennent pas ces paroles quand il dit, Jésus, que le Fils de l'homme va souffrir, qu'il va être tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Il est remis debout. Marie, elle, n'a pas oublié. Elle demeure dans une espérance totale. Et Paul VI, je crois, parce que la colère dans laquelle nous vivons maintenant, il ne faut pas croire qu'elle est d'hier, elle est depuis longtemps. Il y a longtemps que ça se prépare, tout ce que nous vivons maintenant. Eh bien, Paul VI, à ces moments si difficiles pour lui après Vatican II, a lu des pères de l'Église une parole qui, pour lui, a été consolante. À la croix, toute la foi de l'Église s'est réfugiée dans le cœur de Marie. Marie est plus nécessaire que jamais. Elle est le lieu, le bastion de l'espérance. Et ses petites filles avec elle. Debout au pied de la croix, rappelle le deuxième concile du Vatican, Marie souffrit cruellement avec son fils, associée d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour. Il faut qu'elle consente à la passion de Jésus pour que cette passion puisse faire en sorte qu'elle découvre que son immaculée conception vient de la croix du Christ. Elle est sauvée avant même que le Sauveur soit né, elle qui va donner naissance au Sauveur. Donc Jésus n'est pas mort en vain. Dans l'évangile de Jean, la passion est présentée comme un enfantement. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez, le monde se réjouira. Mais on se réjouit aujourd'hui que l'Église ne mette plus son grain de sel partout. Et c'est n'importe quoi. Le monde se réjouira. Et l'Église est humiliée comme une vieille femme rejetée, une guenille. Le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme sur le point d'accoucher s'attriste parce que son heure est venue. Mais lorsque elle ne se souvient plus des douleurs, en recevant Jean, elle enfante. Et comme toute femme qui enfante, elle est dans la consolation de son fils. Mystérieux. Vous aussi, maintenant, vous voilà triste, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie. Et votre joie, nul ne pourra vous l'enlever. Mystère de la femme, mystère de Marie. Alors, on va voir comme ça des petites lumières d'auteurs différents. Après Ravanel, c'est Ratzinger. Et à chaque fois, c'est un aspect différent qui est donné. Alors, que nous dit Ratzinger dans un ouvrage qu'on a déjà cité hier ? Me voici, dit-il, parvenu au second aspect. Bon, c'est tout un livre. Hein? Magnifiez Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Magnifiez Dieu veut dire, d'une certaine manière, se libérer pour lui. Il s'agit de cet exode particulier, de cet exode qui fait sortir les hommes d'eux-mêmes, de ce que, de façon originale, Maxime le Confesseur a décrit dans son commentaire de la Passion du Christ comme le passage de l'opposition à l'union de deux volontés. L'agonie de Jésus se retrouvera dans son corps. Père, éloigne ce calice, mais non, pas ma volonté, dit Jésus. Tout fils de Dieu venu dans la chair qu'il est, mais ta volonté. On aura toujours, toujours ce combat entre ce que je veux et ce que tu veux. Mystère. Or, pour que ce que tu veux se réalise, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Le vieillard dit à Marie, « Vois, cet enfant doit mener la chute et le relèvement pour un grand nombre en Israël. Il sera un signe en but à la contradiction et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. » Ne croyons pas que c'est à l'extérieur. C'est à l'intérieur de chacun de nous que Jésus est un signe en but à la contradiction. Et voilà où prennent corps toutes nos épreuves. Il nous faut tenir bon comme la femme qui enfante, envers et contre tout. Après, il prend l'image de David. Le glaive lui transpercera le cœur. C'est la référence à la passion de son fils qui deviendra sa propre passion. L'épouse suit l'agneau partout où il va. Or, celle-ci commence dès la visite qu'elle fera prochainement au temple. Il lui faut accepter la priorité de son véritable père et de sa maison qui est le temple. Marie, elle-même, toute immaculée qu'elle est, sera comme déportée dans le monde de son fils. Voici ton fils, voici ta mère. Elle doit apprendre à s'affranchir de celui qu'elle a enfanté. Il lui faut aller jusqu'au bout du oui à la volonté de Dieu qui la fit devenir mère en s'effaçant, en le laissant partir pour accomplir sa mission. Dans les retraits qui lui sont imposés durant sa vie publique de son fils et dans son effacement, s'opère une démarche importante qui verra son accomplissement à la croix dans cette parole « Voici ton fils ». Il y a une différence entre le pauvre Jean et Jésus. Eh bien, désormais, c'est de Jean dont elle va avoir la charge et dont elle va devoir s'occuper. Après, qu'allons-nous regarder ? Balthazar, Marie, première église. Elle est rendue à l'église et l'église lui est confiée. Le ministère apostolique lui est confié. Marie, première église. Je donne le titre des livres dans lesquels se trouvent ces aspects. Alors, je crois bien que je suis en train de m'embrouiller dans mes papiers. Ça, c'est pas étonnant. Je crois que c'est celui-là. Donc, Marie, archétype de l'Église. C'est lui-même, Jésus, qui manie le glaive. Un glaive de douleur te transpercera l'âme. Comment autrement aurait-elle atteint sa maturité ? celle dont elle fait preuve au pied de la croix, où non seulement l'échec terrestre de son Fils, mais aussi son abandon par le Dieu qui l'a envoyé devienne manifeste. Adrienne, Balthazar, tout ce thème du délaissement. Une autre manière de lire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comment peut-elle participer à cette parole, sinon en sentant ce retrait de Jésus lui-même ?« Femme, voici ton fils. » Et comme pour remplir jusqu'au bord la mère Calice, écrivez comme vous voudrez, le fils mourant, abandonne encore expressément sa mère, car il se retire à elle et lui donne un autre fils. Voici ton fils. On a coutume de voir ici avant tout le souci de Jésus au sujet de l'avenir de sa mère. Il devient évident du même coup que Marie n'avait aucun autre enfant selon la chair, hein, toujours le même thème. Car autrement, la remise de Marie au disciple bien-aimé aurait été inadmissible. Mais on ne doit pas, pour cette raison, méconnaître l'autre motif. De même que le Fils est abandonné par le Père, il abandonne aussi sa mère, afin que tous deux soient unis dans un commun abandon. Et mystère d'un amour qui va jusqu'au bout de l'amour. Par là seulement, Marie est intérieurement prête à assumer la maternité ecclésiale envers tous les nouveaux frères et sœurs de Jésus. On ne s'accapare rien, on ne garde rien, on donne et on reçoit tout. Les pensées inlassablement développées et approfondies par la tradition catholique sur ce thème sont si riches qu'il suffira ici de les indiquer brièvement. Marie est mise par son fils sous la garde de l'un des apôtres et ainsi dans l'Église apostolique. Et nous, nous voyons le négatif, on voit la douleur, on ne voit pas l'enfantement. Or, l'enfantement, c'est que Marie sera au cœur de l'Église. Elle est donnée à l'Église par Jésus lui-même. Comme l'Église sera donnée à Marie, c'est là que se rebondit la fécondité de ce qui peut paraître tellement dur à avaler. Jésus donne par là à l'Église ce centre ou cette pointe qui, d'une manière inimitable et pourtant à rechercher sans cesse, personnifie sa foi, la foi de la nouvelle communauté. Le oui immaculé, sans réserve, à tout le plan divin de salut pour le monde. Dans ce centre et cette pointe, l'Église n'est pas seulement dans l'éternité future, mais dès maintenant, grâce à Marie, l'épouse sans tache ni ride. Par la présence de Marie dans l'Église, l'Église est immaculée. On pourrait continuer. Alors, qu'allons-nous citer maintenant encore, toujours dans le même sens? Et puis on arrive à la fin, c'est bien. Alors le oui de Marie se renouvelle comme à l'Annonciation. C'est mystérieux, ce oui de Marie. Il y a là un grand mystère. À l'Annonciation, Marie avait eu certes une hésitation, se demandant si l'angoisse qu'elle commençait à sentir dans tout son être venait de Dieu. Il a fallu que l'ange la rassure pour que, sachant que c'était bien la parole de Dieu, elle reçoive l'Esprit Saint dans un acte d'obéissance et devienne mère de Jésus. À la croix, quand elle nous reçoit comme enfant, c'est dans un amour sans aucune hésitation. Ce n'est plus un ange qui le lui demande, c'est son fils, c'est Jésus lui-même. Et Jésus, qui connaissait si bien le cœur de Marie et avait une telle confiance en elle, ne lui demande pas la manière de l'ange de l'Annonciation, il sait qu'il n'a pas à le lui demander. En la personne de Jean, il lui donne simplement, dans ses souffrances et sa douleur, tous les prêtres, toute l'Église. Étant sur la croix, Après avoir regardé vers le Père, Jésus tourne donc son regard vers la terre et il voit Marie, là, debout, la seule qui comprend pleinement les sentiments de son cœur et qui le console vraiment, justement parce qu'elle n'est pas affolée ni dans l'angoisse, mais totalement unie à lui et comprenant pleinement le sens de son sacrifice. Il voit aussi Jean, si affolé au contraire, si désespéré humainement, conscient pourtant d'avoir à continuer comme prêtre l'œuvre de Jésus. Alors, Jésus demande à Marie de détacher son regard de lui pour consoler Jean. Et en recevant Jean, Marie nous reçoit tous dans son cœur avec un amour encore plus grand que l'amour avec lequel elle a reçu Jésus à l'Annonciation, car son amour avait grandi. Je vous ai d'une telle beauté. Alors, en guise de conclusion, eh bien, j'aurais voulu vous emmener la cassette, mais j'ai pas eu le temps, et puis peut-être ça plairait pas à tout le monde. C'est comme celui qui chante Thérèse, là, Pierre Eliane. Alors, il chante aussi Élisabeth de la Trinité. Je vous le conseille beaucoup, ce disque. Moi, je m'en rassasie presque quotidiennement. Alors donc, c'est Pierre Eliane qui chante Élisabeth de la Trinité. C'est très bien fait, comme pour les cassettes de... Alors voilà ce que Élisabeth de la Trinité dit. Alors si on avait la cassette maintenant, on la ferait partir. Et ça aurait une autre couleur, un autre relief que quand je vous le lis. Alors c'est une poésie au Sacré-Cœur de Jésus. Et puis on conclura avec ça. Salut, amour, gloire et honneur. Ô Jésus, à ton divin cœur, ce cœur, source inépuisable, ce cœur, fontaine intarissable, ce cœur transpercé par la lance, ce cœur abreuvé de souffrance, ce cœur, hélas, tant outragé, ce cœur, mon refuge assuré, captif dans sa prison d'amour. Il souffre de la solitude, de l'oubli, de l'ingratitude. On l'abandonne chaque jour, hélas, comme à Gethsémani, comme au soir de l'agonie. Il est seul, ou presque toujours, ce cœur si débordant d'amour. Qu'est-ce qu'il n'est point fait pour nous? Ce grand Dieu, la toute puissance, ce Dieu de notre amour jaloux, ce Dieu que toujours on offrance. Ô cœur sacré de mon Sauveur, toi que j'adore, ô toi que j'aime, toi, tout amour, bonté suprême, toi seul possède mon cœur, sacré cœur du divin ami, sois ici mon seul appui. Et que ma douce espérance soit de partager ta souffrance, j'aspire tant, ô doux Sauveur, et je trouverai mes délices à consoler ton divin cœur, à boire avec toi le calice, à le boire jusqu'à la lie, comme au soir de ton agonie. Et puis, j'écouterai, doux Sauveur, tout le récit de tes douleurs, et j'essaierai par mes souffrances, par mon amour, divin Sauveur, de consoler ton divin cœur, car telle est ma douce espérance, tel est mon plus ardent désir, tel est mon vœu le plus intime, de vivre, souffrir et mourir, et de m'offrir comme victime pour l'amour, la gloire et l'honneur du bien-aimé du Sacré-Cœur. Amen.